Tout le monde a passé un petit peu quand même dans la Torah ou pas du tout? Un petit peu. On fréquentait un peu le Talmud Torah. Bon, si vous comprenez pas des mots que je prononce, si je dis des choses en hébreu ou quoi, vous m'arrêtez, vous me demandez, d'accord. Que tout le monde comprenne bien de quoi on va parler. Asbe Ezrat Hashem. Bon, bienvenue à tout le monde en Yeshiva. Chacun pour le temps qu'il y reste. Vous allez rentrer, vous allez commencer à étudier Gemara et Gemara et encore Gemara. Et bon. Gemara, 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 Gemara. Comme ça on fait dans les yeshivot. On étudie de la Gemara du matin au soir et du soir au matin. De la Gemara et encore de la Gemara, encore de la Gemara. Talmud, Talmud, Talmud du matin au soir. Alors, il y a une question, Béhémeth, que tout le monde doit se poser à ce moment-là. Sans que tout le monde se pose. En vérité, Béhémeth, si quelqu'un, il se la pose pas, ou il recherche pas la vérité, ou il se voile une question. D'accord? Donc en vérité, tout le monde a cette question qui revient dans la tête un petit peu. Et on va dire, c'est quoi la question? Hein? Mais en vérité, c'est pourquoi quelqu'un qui va pas se poser, qui va se poser cette question et qui va pas y chercher la réponse, il a un gros problème. Pour la simple et bonne raison que le Arizal nous dit que il faut oui poser des questions. Mais si tu trouves pas de réponse, alors tu as multiplié la klipat hatouma, ce qu'on appelle. C'est quoi la klipat hatouma? C'est l'écorce d'impureté dans le monde. On va pas rentrer dans. Je connais pas ce que ça veut dire. La seule chose que je sais, c'est que ça veut dire que c'est pas bien. D'accord? C'est quand on va multiplier la touma dans le monde. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que tu vas rester avec des doutes. Or, le doute, comment on dit le doute en hébreu? Safek.
C'est le début du rachat, non?
Safek, c'est Gematria. Amalek. Vous savez tout ce qui est Amalek? Amalek, tout le monde connaît. Amalek, c'est l'ennemi juré du peuple d'Israël, qui veut l'exterminer depuis toujours, pour ce que représente le peuple d'Israël, c'est-à-dire la Torah. En gros, ça veut dire que quand quelqu'un il a un doute et qu'il ne trouve pas une réponse à ce doute, un jour ce doute risque de fleurir dans son cœur et commencer à le faire, à le faire déraper. La question, on va y arriver. On y arrive. La question, elle est comme ça. On étudie de la Gemara tous les jours. Toute personne qui vient en yeshiva, en général, quelqu'un qui vient de loin, il a cette question, c'est obligatoire parce que c'est pas possible. Je viens pour étudier la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Pour savoir qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de moi. Qu'est-ce qu'il attend de moi? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Comme pour ça, on vient en yeshiva. Pourquoi on vient en yeshiva? Stam pour. Non, on vient en yeshiva. Pas pour être des parasites, comme il y en a, ils disent. On vient en yeshiva pourquoi? Pour savoir ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous. Et qu'est-ce qu'on va me dire? Ah, Abaye, il a dit comme ça. Rava, il a dit comme ça. Et Rabbi Akiva, et Rav Hasda, et Rav Papa, et Rav. Et Hachem. Hachem, elle est où la parole d'Hachem là-dedans? Elle est où la parole d'Akadosh Baruch Hu? On n'ouvre jamais un chumash, presque jamais. Presque jamais un chumash. Et on est là à se prendre la tête. Et celui-là, il fait une dracha. Tout le monde sait ce que c'est une dracha? Une explication du verset. Il va expliquer le verset. Tu lis le verset, aucun rapport avec l'explication. Mais aucun rapport. Il t'a sorti, oh, ça veut dire ça, donc ça correspond à telle chose, et donc c'est pour ça qu'on apprend ça. Attends, il y a un verset, il dit pas ça, il parle pas de ça, il a aucun rapport avec ça. Qu'est-ce que tu m'apprends une loi qui n'a aucun rapport avec ce verset? Quand vous avez tous commencé avec Ketubot aujourd'hui, avec Hanania Yeshurun, avec Rav Yeshurun, vous avez tous commencé avec Ketubot. Je sais pas si vous avez commencé des explications de versets encore, mais des fois c'est très tiré par les cheveux. Je ne sais pas si tout le monde a étudié de la Gemara déjà dans sa vie, mais déjà les Mishnayot, des fois il y a des explications qui sont un peu un peu bizarre. Mais alors la Gemara, c'est des drachot, une xerashava, et un ekesh, et un ci, et un ça. Tachlès, tu as pris la Torah, tu l'as enlevée de son sens premier, et tu en as fait une deuxième. Est-ce que vous êtes déjà posé une question pareille? Est-ce que vous êtes déjà posé une question? Mais le judaïsme aujourd'hui est une religion des rabbins, inventée par les rabbins, sur base de la Torah. Mais c'est une religion créée par les rabbins. Et pas ce qu'Akadosh Baruch Hu a écrit dans la Torah. Hein?
Pas pour ma part.
Pas pour ta part?
Je me suis déjà dit que c'était possible que les rabbins, ils avaient pas exagéré la Torah, mais rajouté des choses pour pas que les gens qui sont très loin de la Torah, ça
c'est
pas.
Il y a ça, les rabbins ont fait ça. Maintenant, en vérité, quand on regarde la Torah qu'on pratique aujourd'hui, combien de mitzvot mina Torah on applique par jour? Hein? Pas beaucoup. Hein? Tzitzit, tfilin, quoi d'autre? Hein? Birkat Amazon pour ceux qui mangent du pain.
Shema Amida.
Shema, Amida, c'est pas d'Oraïta. Prier, c'est d'Oraïta. De faire une Amida telle qu'elle est écrite, non. Hein? Non, ça c'est des interdits. Non, des mitzvahs positives. Brachot, qui t'a dit que c'est une mitzvah d'Oraïta? C'est des décrets des rabbins. Hein? Pour ceux qui le font, ouais. J'ai dit les tefillines. Étudier. Respect des parents. Mais sur les 613. Allez, même celui qui est très bon, il arrive 30-50. Ah, 50, c'est un bon. Hein. C'est un très bon 50. On est très loin. Et qu'est-ce qu'on fait? Qui douche sur du vin? Et tout le monde le fait. Presque tout le monde le fait. Shabbat, ils font pas, mais qui douche quand même? Vesham et Reuben et Israël. Ils garderont les bénis Israël le Shabbat, mais il est venu en voiture. Mais bon, ils garderont le Shabbat. Il fait qui douche. Ça va. Les rabbins, ils t'ont dit de faire qui douche sur du vin. Mouktsé, c'est un rabbin. Tout. La Torah telle qu'on la pratique aujourd'hui, si on la regarde réellement d'un œil un peu critique, on voit qu'en vérité, c'est une Torah. Le judaïsme aujourd'hui est une religion de rabbin. Les trois quarts des mitzvot qu'on applique aujourd'hui, c'est des mitzvot d'ordre rabbinique. Toute la tefila. C'est sur ordre rabbinique. Comment faire ça? Comment faire ça? Tu mets tes pieds comme ça et pas comme ça. Et tu recules comme ça et pas comme ça. C'est marqué dans la Torah tout ça. Hein. C'est même pas marqué que je dois prier. Nous, on le comprend des versets, mais c'est pas écrit noir sur blanc. Attention, tu prieras tous les jours. On va mettre encore plus la question. C'est quoi ton nom? Ethan. Comme Ethan le précise, même les tefillines, on pourrait dire que c'est pas d'oraïta. Pas que c'est pas d'Oraïta, c'est d'Oraïta, mais c'est les rabbins qui t'ont expliqué que c'était des tefillines. Ce qu'on t'a demandé. Mais sans les rabbins, tu aurais jamais pu savoir que ces tefillines-là, ils doivent être noirs, carrés, et ici, et pas là. Ou pas là, comme ils font les karaïtes. Les karaïtes, ils prennent une boîte, on ne sait pas d'où ils ont sorti une boîte noire aussi, hein, mais ils prennent une boîte noire et ils se la collent comme ça dans les yeux, avec un bâton, comme tac. Maintenant, parce que c'est écrit entre tes yeux, donc ils font comme c'est écrit. Par exemple, ils ont, à part allumer le feu, Shabbat, tout est permis pour eux. Mais il n'y a pas de plate, hein. Parce que tu fais chauffer. Tu n'as pas le droit d'avoir un feu qui existe déjà depuis la veille et poser dessus, d'après eux. Parce que c'est marqué, il n'y aura pas de feu dans tes maisons pendant Shabbat. Hein. Pourquoi nous, on peut? Donc en vérité, tout ça, nous, on a 39 melachot Shabbat. 40 moins 1. D'accord, 39 melachot. Mais elles sont écrites où dans la Torah?
C'est les travaux du Beth-Amidash, non?
Peut-être, mais ils ne sont pas écrits dans la Torah que c'est Shabbat, que c'est interdit. C'est les rabbins qui t'ont expliqué que vu que les deux versets y sont collés, la construction du Beth Amikdash est collée au respect du Shabbat. Pourquoi Hachem il a fait ça? Pour t'apprendre que tout ce qui a été fait dans le Beth Amikdash pour le construire, ça t'a interdit Shabbat. Mina Torah. Mais attends, et qui c'est qui m'a dit que je dois t'écouter? Moi, j'ai envie de dire comme les Karaïtes.
C'est écrit dans la Torah, ça. Tu dois écouter tes
Alors, en tout cas, c'est une question que normalement toute personne qui cherche le Emet, il regarde aujourd'hui la Torah, il regarde aujourd'hui la Gemara, d'accord. Quand vous allez tomber sur des explications de versets et qu'on va vous dire ah et comme ça les halakha, tu vas te dire oh oui bon, pire encore. Tout Baal Tshuva, normalement, quelqu'un qui est dans la Torah, ça le perturbe pas, d'accord. Qui est né dans la Torah parce qu'il sait qu'il y a des réponses. Il sait qu'il y a des réponses, il va les trouver avec l'âge. Même Baal Tshuva en général qui cherche le Emet, il va se battre pour chercher le Emet. Tu lui dis quitte ta vie de mensonge dans laquelle tu vis pour venir dans une vie de vérité. Il te dit, dis-moi, si c'est une vie de vérité, pourquoi Rava il est pas d'accord avec Abaye? Il y a combien de vérités ici? On voit dans la Gemara plusieurs fois, la Gemara elle dit que vu que les sages ont décrété ainsi, donc Hachem a changé la chose pour que ce soit ainsi. Ouais, mais ça, c'est encore les rabbins qui ont écrit ça. Ils sont bien arrangés quand même. Ils ont fait un système d'études barricadé avec des règles claires que tu peux jamais prouver que c'est faux. Et ça tourne tout autour, mais c'est tout eux qui ont dit. Alors, maintenant, il y en a, là, je vois sur les visages, ils commencent à douter maintenant. D'accord.
Non.
Non. Quelqu'un qui se pose pas cette question, à mon avis, c'est un fou de Dieu. Ouais, on s'en fiche, c'est pas grave, la Emouna. On n'est pas des Emouna. Il y a la Emouna, on croit. Mais pour croire, il faut d'abord être sûr. Or, si un jour quelqu'un il a une question pareille et il ne trouve pas la réponse, c'est très dangereux. Moi, ce que je veux, c'est ce qui est écrit dans le Torah, c'est vrai. Parce que ça, j'ai la preuve que c'est Hachem qui l'a transmis à mon cher Benou. Non, ce qui n'est pas écrit, les rabbins, ils ont rajouté.
Ça aussi, on peut les mettre, si vous n'êtes pas d'accord avec les rabbins, c'est l'image. Alors, ça aussi, on peut mettre que, on ne sait pas, c'est peut-être quelqu'un qui l'a raconté il y a 1000 ans.
Et non, c'est facile à prouver, mais ce n'est pas le sujet du cours. Ouais, okay. Mais ça, c'est facile à prouver, très facile à prouver. C'est tic-tac en 3 minutes. Maintenant, ouais, le Kuzari. Maintenant, le comment ça s'appelle? Le Kuzari Rambam, Mefourage, dans l'Ilkhot Deot, il écrit noir sur blanc, la preuve c'est Matan Torah. Point. Ok. Non. Mais on ne va pas rentrer dans la preuve du Matan Torah maintenant, ce n'est pas le sujet. C'est la réelle preuve irréfutable. D'accord? Celle que personne ne ramène jamais, parce que elle est. Parce que elle est trop, elle est tellement forte,
tellement évidente
que les gens ils vont pas l'accepter.
Laquelle je sens.
C'est un autre cours, non mais il faut que je développe parce que si après forcément il y a 10 000 questions et c'est pas le. Maintenant, en tout cas. Alors, maintenant, d'où on sait que ce que les rabbins ils disent, la Gemara. Etc. etc. On est du matin, on s'en fiche de Roi HaKodesh royalement. Roi HaKodesh, c'est pour les croyants.
C'est pas vrai.
Si.
Mais non, c'est pas vrai.
Moi, je crois pas à des choses qui traversent l'air comme ça. C'est Roi HaKodesh. Roi HaKodesh, tu regardes un type, tu vois qu'est-ce qui est écrit sur sa tête. Ok.
Vous n'êtes pas marocain.
Hein? Du tout. Juste tu peux. Maintenant, Roi HaKodesh, c'est pas ça de la réflexion. Le roi, pour ceux qui savent pas c'est quoi Roi HaKodesh, c'est presque de la prophétie. D'accord? Il y a la prophétie. Aujourd'hui, lui, il veut dire. C'est quoi ton nom?
Binyamin
veut dire que les rabbins de la Gemara, ils ont écrit la Gemara par Roi HaKodesh. D'accord? Ah moi je te parle déjà de la Gemara avant parce que si pour écouter ceux qui sont encore maintenant pour écouter ceux qui sont maintenant alors déjà il faut que je comprenne pourquoi je dois écouter ceux qui ont mis les bases de ceux qui sont maintenant parce que sinon pourquoi je vais les écouter ceux-là qui il est pour me dire quelque chose à moi. Deuxièmement, donc pourquoi ils sont en marloktot, pourquoi ils ont des discussions, pourquoi ils sont jamais d'accord? Si c'est vrai, pourquoi tu es jamais d'accord? Si c'est une vérité que tu as reçue depuis Moshe Rabbeinu, pourquoi les rabbins ne sont pas d'accord entre eux? Il devrait y avoir qu'une seule vérité. normalement, tout Baal Tshuva, quand il commence la Gemara, il devient fou à cause des Mahloktot. À cause des discussions qu'il y a entre les rabbins dans la Gemara. Il devient fou à cause de ça. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Lui, il mangeait. Ah, lui, Rabbi Eliezer, dans sa ville, il a ordonné on peut faire des grillades avec du beurre. Mais où on va? Où on va? Mais tu vas à Yerushalayim, on te condamne. On te fracasse si tu fais un truc pareil. On te dit, tiens, rachat, tu n'as pas écouté les sages, tu n'as pas machin. Mais chez Rabbi Eliezer.
C'est trop dur pour cette génération. Ils vont prendre la ville moins marmère. C'est peut-être pas la vérité.
Mais qui c'est qui t'a dit un truc pareil?
Mais ça,
encore, c'est les rabbins. As maintenant, as... Allez, on va essayer de répondre. Donc, Béhémet, on voit notre paracha, paracha de Shoftim. Elle répond à toutes ces questions. Pourquoi ? C'est écrit dans la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu. D'accord ? Donc c'est pas écrit maintenant par les rabbins. Écrit par Akadosh Baruch Hu. La preuve que ça a été écrit par, que ça a été donné par Akadosh Baruch Hu, c'est un autre cours. Mais on part dans, comment on dit ça ? Un axiome ? Bon, je sais pas.
Oui, une direction.
Ouais. On part dans comme donné. Que la Torah, c'est forcément Akadosh Baruch Hu qui l'a donné, qui l'a écrit, qui l'a transmise à Moshe Rabbeinu. C'est écrit ici, premier verset de la paracha, Shofetim veshoterim, titen lecha bechol she'arecha, asher Adonai Elohecha noten lecha, lishvatecha veshaftu et ha'am, mishpat seder. C'est écrit quoi ici? Ça veut dire comme ça. Des juges et des flics, des policiers. Tu mettras dans chacune de tes villes qu'Akadosh Baruch Hu te donne. Et eux, ils jugeront le peuple une loi juste. C'est très bien. C'est très joli. C'est quoi des juges? Hein?
Le
Bedin.
C'est
des juges, ouais. Hein? Non. Ça c'est évident. Ça c'est de la logique. Il faut déjà partir par une autre base aussi. Il faut connaître que tout ce qui est logique, il n'y a pas besoin que ce soit écrit dans la Torah pour être prouvé que c'est vrai.
Exemple.
D'accord. Exemple maintenant, là tu me prends.
Tu respires, tu existes.
Non. Exemple. Qui c'est qui va juger les lois de la Torah, forcément quelqu'un qui connaît la Torah. Et pas le type. Tu vas pas demander maintenant au juge d'être un plombier. D'accord? Tu vas pas en France prendre la cour d'assises. Le juge, à mon avis, il a étudié un peu du droit quand même. D'accord? Il connaît le droit. C'est logique. Il n'y a pas besoin d'être maintenant sorti de Saint-Cyr pour savoir une chose pareille. C'est logique. Si. Quelqu'un qui peut juger, c'est forcément quelqu'un qui connaît toutes les lois. Donc forcément, qui c'est les juges? C'est ceux qui connaissent toute la Torah. Donc c'est les rabbins. C'est logique, il n'y a pas lieu de discuter là-dessus. D'accord? C'est complètement logique. Donc les shoftim, c'est qui? Rashi nous dit, Dayanim aposkim et adin. Ce sont les rabbins qui vont décréter la loi. C'est qui les policiers? C'est ceux qui font appliquer la loi. Donc comme dans tout pays, l'Avdil ben Kodesh l'Hol, dans toute civilisation, il y a des juges qui jugent la population. Toi, tu dois ça à un tel, toi ça. Chez nous aussi, sauf que la loi, chez nous, ce n'est pas une constitution inventée par les hommes, c'est la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnée. Donc ceux qui vont juger, c'est ceux qui connaissent la Torah. Et quand ils vont décréter devant le tribunal que Réhouven, il doit de l'argent à Shimon, si Réhouven, il ne veut pas payer Shimon, eh bien la police, elle va aller le faire payer. Manu militari s'il faut. Quelqu'un qui a posé une question? Ça veut dire avec force. D'accord? Avec des coups même. Okay. Donc, si quelqu'un ne veut pas payer, aujourd'hui ils font la prison en France, mais nous d'après la Torah on est complètement anti-prison parce que c'est le meilleur moyen de faire des gens encore plus délinquants que ce qu'ils étaient avant d'y aller. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, souvent, très souvent, hein, le bâton, ça fait bien plus peur que la prison. Parce qu'aller 3 semaines en prison ou prendre 20 coups dans le dos, Il y a beaucoup qui préféraient aller 3 semaines en prison. Parce que c'est pas des petits coups. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les policiers, ils devaient faire appliquer la loi. Comme aujourd'hui, si tu veux pas appliquer ta loi, tu vas en prison. Tu veux pas appliquer la loi, tu vas en prison. Alors à l'époque, eh ben, ils te mettaient des coups. D'accord? Pour te faire appliquer la loi. Si le Dayan, le juge, il t'a dit, toi, tu lui dois un temps parce que tu lui as cassé la voiture, ou parce que tu lui as fait ci, ou parce que tu lui as fait ça. Donc, tu dois appliquer ce qu'on te dit. Ça, c'est comme ça. Après, c'est marqué autre chose. Ça, c'est chapitre Tetzain 16, d'accord, verset Yudhet 18. Après, en chapitre 17, Dvarim, chapitre 17, là-bas, il y a marqué une autre loi. Il y a marqué comme ça, quelque chose étrange. Il y a marqué, lorsque tu auras une question, et palé mimecha davar. Lorsqu'il y aura quelque chose que tu ne sais pas, ipalé, ça veut dire quelque chose d'étonnant. D'accord? Tu as un questionnement, tu as un doute dans quelque chose. Dans quoi? Nous dit la Torah, la mishpat ben dam le dam, entre du sang et du sang. Ben din le din, entre une loi et une autre loi. Ben nega la nega, entre une plaie et une autre plaie. Divrei ribot b'sha'arecha, s'il y a des disputes dans tes portes, dans tes villes, il y a des discussions, on ne sait pas c'est quoi la loi. On ne connaît pas. C'est quoi? Comment on doit se comporter dans un cas pareil? Alors, qu'est-ce que tu feras? La Torah te dit, Vekamta ve'alita el hamakom asher yivchar Hashem elokecha bo. Tu te lèveras et tu partiras vers l'endroit qu'aura choisi HaKadosh Baruch Hu pour faire résider son nom là-bas. C'est où? Le Bet HaMikdash. Bet HaMikdash. Yerushalayim. D'accord? Pas que Yerushalayim, mais c'est ou dans le Mishkan ou au Bet HaMikdash quand il était à Yerushalayim, fixé à Yerushalayim. Ou Bata el HaKohanim HaLeviim, et tu viendras vers les Kohanim qui sont des Leviim, vers la Shofet et vers le juge Asher Yé Bayamim Ahem, qui vivra dans ces jours-là, Vedarashta, et tu expliqueras c'est quoi ton problème, Vehigidu Lecha et Devar HaMishpat. Et eux, ils te répondra c'est quoi que tu dois faire. Eux, ils te répondront, qu'est-ce que tu dois faire. Va'asita al-pi ha-Torah, al-pi ha-davar asher yagidu lecha, min ha-makom ha-hu asher yivchar Hashem, ve-shamarta la-asot ke-chol asher yorucha. Et tu feras selon la chose qu'ils te diront. Depuis l'endroit qu'aura choisi HaKadosh Baruch Hu, et tu garderas Veshamarta la Asot, et tu te préserveras de bien appliquer tout ce qu'ils t'auront enseigné. Al pi Torah asher yorucha, selon la Torah que eux t'enseigneront, ve'al mishpat asher yomru lecha, et d'après la loi que eux te diront, ta'ase, tu feras. Lo tasu min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol. Tu ne te détourneras pas de ce qu'ils t'auront ordonné, ni à droite ni à gauche. Va'aish asher ya'ase bezadon levilti shemoa el kohen ha'omed lesharet sham et Hashem Elokecha o el shofet umet ha'ish ahu ubi'arta ra mi'Israël. Et si un homme volontairement, après avoir entendu ce qu'ils lui ont dit de faire, refuse d'écouter ou le kohen qui sert là-bas dans le Bet HaMikdash ou le juge, c'est-à-dire le Dayan qui n'est pas forcément Kohen, d'accord? Le Dayan qui n'est pas forcément Kohen, alors cet homme mourra et tu supprimeras le mal d'Israël. Il est condamné à mort, d'accord? Et on nous dit, et tout le peuple entendra cette chose-là et ils auront peur, ils ne recommenceront plus. Personne ne recommencera à faire la même chose. Il y a ici plusieurs mitzvot. On voit plusieurs mitzvot. On voit la première mitzvah, c'est de nommer des juges dans toutes les villes du pays. D'accord? Avec des policiers qui vont faire respecter ce que les juges décrètent. Deuxième mitzvah, c'est que si tu as un doute, tu dois monter au Bet HaMikdash, poser ta question. Et là-bas, on te répondra à ta question. Et si jamais, et tu dois écouter exactement tout ce qu'ils t'auront dit. Et si jamais tu n'écoutes pas, tu transgresses un interdit de la Torah, qui est celui d'écouter, et il y a un interdit de ne pas écouter qui, parce qu'ils te disent Lotasum Mimashiyerucha, tu ne te détourneras pas de ce qu'ils t'ordonneront, donc c'est un interdit maintenant. Donc il y a une mitzvah de les écouter, et il y a un interdit de ne pas les écouter. Donc quelqu'un qui ne les écouterait pas transgresse deux mitzvot, une mitzvah positive et une mitzvah négative. Dit par Akadosh Baruch Hu. Et on voit que a priori il y a une peine de mort pour celui qui n'écoute pas. À l'époque du temple, bien entendu, à l'époque où il y avait des tribunaux de 23 qui pouvaient juger et condamner à mort, ce qui n'existe plus aujourd'hui depuis 40 ans avant la destruction du Beit Hamikdash. Déjà, le Beit Din s'est exilé pour ne plus condamner à mort, parce qu'ils ont dit que ça ne sert plus à rien qu'on condamne à mort les gens, puisque tout le but de la condamnation à mort dans la Torah, c'est quoi? C'est que le peuple ne fasse pas de Averot. D'accord? C'est d'avoir peur pour ne pas faire de Averot. Mais si même, mais on voit que même en condamnant à mort, ils font quand même. Alors le but, c'est pas d'exterminer le peuple d'Israël. D'accord? Donc le Beit Din, il a préféré dire, nous, on condamne plus, on s'en va. Comme ça, ils ont arrêté. Il n'y a plus de Beit Din, et puis c'est tout. Il n'y a plus de condamnation à mort. Condamnation à mort. Alors, en tout cas, on voit, ici, il y a plusieurs mitzvot. Il y a trois mitzvot, en gros, de mettre des juges, d'écouter ceux qui sont au Beit Hamikdash, et de ne pas se détourner de tout ce qu'ils diront. Alors, a priori, de quoi on parle ici? Si, tu peux le refermer, ça ne claque pas. Mais... si j'ai une mitzvah de mettre des juges dans chacune des villes, pourquoi j'ai la mitzvah d'écouter que ceux qui sont au Beit Hamikdash? Je devrais écouter tous. Non? C'est quoi aucun des deux? Le Beit Hamikdash, on parle aussi d'un Beit Din. On parle du Beit Din à Gedola. Beit Din à Gedola qui était 71 juges réunis dans le même Beit Din, dans le même tribunal. D'accord? Ils étaient assis là-bas, ils siégeaient où? Dans le Beit Hamikdash, dans l'Ishkat Agazit, ce qu'on appelle. C'est quand on rentrait dans le Beit Hamikdash. Il y avait plusieurs parties dans le Beit Hamikdash. Dans la partie la plus sainte, une des parties les plus saintes, quand on rentre côté nord, je crois que c'était, côté nord, il y avait ce qu'on appelle le Sanhedrin. Ce qu'on appelle le Sanhedrin, c'est le Beit Din Agdola. Ok? Eux, de ça, on parle. Donc, c'est aussi des juges. Alors, pourquoi je dois écouter eux si je les écoute pas? J'ai un gros problème, en vérité. Je peux être même condamné à mort. De quoi on parle ici? Ah, j'attendais la question. La Gemara, ça c'est très joli, mais c'est pour les sages à l'époque où ils vivaient, à l'époque du Beit Hamikdash. Mais la Gemara, elle a été écrite à Babylone. Non, pas 2000 ans après, elle a été écrite 400 ans après. Le Beit Hamikdash, il est détruit depuis 400 ans. Pourquoi je dois écouter la Gemara? Ça, c'est déjà c'est religieux aussi.
Ils ne savent plus exactement comment le faire. Ils ne peuvent plus trancher avec c'est autant de précision qu'avant. Parce qu'il y a le Beit Hamikdash.
Mais pourquoi je dois les écouter, la Gemara? Pourquoi je dois écouter la Gemara, moi?
Il peut marquer Bayamim même.
Hein?
Il peut marquer Bayamim
même. Et Bayamim même, ça vient me dire quoi?
Même dans son temps.
C'est marqué vers le lieu où Akadosh Baruch Hu réside. D'accord, en son temps. Mais en son temps, à l'époque du Beit Hamikdash. Le Beit Hamikdash, entre les deux Beit Hamikdashot, il y a eu presque 1000 ans, d'accord? 410 et 420. Ok? Donc, tu as 830 ans de Beit Hamikdash. 830 ans. Dans ces 830 ans, je dois aller poser la question au juge qui vit dans ma génération. Et pas celui qui a vécu 1000 ans avant. Enfin, 200 ans avant. Déjà, il y a une question là. À quoi il sert ce verset? Qui tu vas aller voir à part le juge qui vit à ton époque? Tu vas aller voir le mort? Je ne vais pas aller poser une question à un mort. Non, alors ce que ça veut dire, c'est que même si tu crois que ton rabbin qui vit dans ta génération, il est moins gros, il est moins grand que celui qui était avant, tu dois écouter lui et pas celui qui était avant. La question que tu poses plus exactement, c'est, arrête, nous sommes tous des fils de prophètes, d'accord? Pourquoi moi je dois écouter ce fils de prophète plus que moi? D'abord, c'est marqué dans la Gemara que Chacham Adif Minavi. Un sage, il est plus grand qu'un prophète. Pourquoi ? Parce qu'un sage, il connaît la Torah, toutes les lois dans ses détails. Parce qu'un prophète a travaillé, même s'il connaît toute la Torah, il n'a pas travaillé cette midala, ce point de travail dans le service divin, autant que le sage. Lui, il a plus travaillé la relation avec Akadosh Baruch Hu. Il est, oui, aussi un sage. Il doit être parmi les plus grands. C'est pas quelqu'un, vous savez. Les gens, des fois, ils disent, pourquoi les juifs, vous êtes durs avec les prophètes qui sont venus après ? Vas-y, pour être prophète, tu as cru qu'il fallait sortir d'une poubelle ou quoi ? Pour être prophète, il faut être un des plus grands rabbins. Il faut s'être purifié. Il faut avoir monté. Il faut être allé en école de prophétie. D'accord ? Puisqu'à l'époque du Beth Amikdash, vous savez qu'à partir du Beth Amikdash, il n'y a plus de prophètes. Dès que le Beth Amikdash est détruit, il n'y a plus de prophétie. Puisqu'il n'y a plus le dévoilement de la présence divine de manière claire. À Kadosh Baruch Hu, il arrête la prophétie. Mais en attendant, il y avait des écoles de prophétie. Et c'est un travail, c'est un autre travail que le travail de la Chochma. Donc tu vas écouter a priori un juge qui connaît tout. Forcément, c'est les plus grands des rabbinim qui sont là-bas. Maintenant, pourquoi il y a une mitzvah pareille d'écouter les rabbins ? D'écouter le Beit Din Hagadol qui est à Yerushalayim dans le Beit HaMikdash. Le grand tribunal qui se trouve à Yerushalayim. Pourquoi on a une mitzvah pareille ? Alors le Ramban y répond à la question et il nous dit comme ça. Pour la simple et bonne raison qu'il y a plein de choses qui apparaissent dans la vie. D'accord ? Avec l'évolution, entre guillemets, ou la dévolution, avec l'évolution dans le temps de la civilisation, on a inventé des téléphones, on a inventé des si, on a inventé ça. Est-ce que tu peux utiliser ça Shabbat ? Est-ce que tu peux pas ? On a inventé l'électricité. Est-ce qu'on peut toucher l'électricité Shabbat ? Est-ce qu'on peut pas toucher l'électricité Shabbat ? Etc, etc. Déjà à l'époque, il y avait des questions pareilles. Déjà à l'époque de nos sages, il y avait des questions pareilles. Alors, les Romains, ils ont inventé des machines. Les Grecs aussi. Ces machines-là, tu peux utiliser Shabbat, tu peux pas utiliser Shabbat. D'accord ? Tout ce qui va apparaître, toutes les cas concrets qui peuvent apparaître après le don de la Torah, ils ne sont pas écrits noir sur blanc dans la Torah. Puisque la Torah, elle a parlé, comme ça je vous le dis des dizaines de fois, au présent. Donc elle a parlé avec son époque. Donc maintenant, tu vas te retrouver face à un cas qui n'est pas écrit noir sur blanc. Toi, monsieur le rabbin Shimon, tu as compris que c'est comme ça. Et monsieur le rabbin Lévi, il a compris que c'est comme ça. Et monsieur le rabbin Reuven, il a compris non que c'est encore autrement. Vous connaissez, il y a deux juifs, trois avis. Ok, pourquoi ? Parce que chacun, il comprend la Torah comme il peut la comprendre lui. C'est pour ça que la Gemara nous répète plusieurs fois, l'odorshim ta'ama dekra. On ne donne pas des raisons à l'explication des versets. Pourquoi ? On ne donne pas des raisons aux versets. Pourquoi la Torah a dit que c'était comme ça et pas comme ça, on ne va pas donner une raison. Parce que ça, toi, tu peux donner une raison, lui peut donner une autre, Et après, c'est fini. On devient des livres de moussard, d'accord ? Ça ne devient plus de la halakha. Fais du moussard, mais plus de la halakha. Maintenant, vient la Torah et te dit non. Il y a un tribunal qui va tout décider pour tout le peuple. Comme ça, chas v'shalom, qu'on n'ait pas 15 000 religions dans la même Torah. Il y a une seule Torah. Et eux vont t'expliquer comment tu dois la comprendre. Pourquoi ? Pour pas qu'on arrive à des milliers de mahloktot. Et on voit que depuis que le Beit Hamikdash a été détruit et qu'il n'y a plus ce Beit Din là, c'est parti les mahloktot. D'accord. En attendant, jusqu'au Beit Din, tant qu'il y avait le Beit Din à Gadol à Yerushalayim, a priori on va voir, c'est pas tout à fait chronologique, mais que plus que 1000 ans d'histoire, la transmission, elle est la même. Il n'y a aucune marloquette. Maintenant, en tout cas, on voit quoi ? Pourquoi il y a une mitzvah d'écouter ce que le Beit Din HaGadol va dire ? Pour la simple et bonne raison que sinon, c'est fini, il n'y a plus de Torah. Il y a des Torotes, mais il n'y a plus de Torah. D'accord ? Il y a plusieurs Torahs. Là, on voit qu'il y a un chiyuv mita, une condamnation à mort pour la personne qui va transgresser ce qu'ils vont dire. Alors, je rassure tout le monde, ça ne s'adresse pas à nous, même si on vivait à l'époque du Beit HaMikdash. Sur tout le monde, on parle de quelqu'un qui vient devant le Bedin, d'accord, il vient devant le Bedin, c'est un Chacham. On parle que lui, c'est un Dayan, déjà. Et maintenant, peut-être même, il est dans le même Bedin en question. Et lui, il n'est pas d'accord avec ce que disent les autres. Et à la fin, le Bedin, il décrète, c'est comme ça la halakha. Mais lui, il sort de là, et comme il n'était pas d'accord, il ne se plie pas à la décision du Bedin, et il enseigne l'inverse. Alors lui, il est condamné à mort. Mais on ne parle pas de quelqu'un qui vient poser une question au rabbin et qui ne l'écoute pas. D'accord, lui, il n'est pas condamné à mort. Lui, c'est juste quelqu'un qui maintenant, il transgresse un interdit de la Torah, mais pour être condamné à mort, il faut être Zaken Mamre, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un sage qui se rebelle. Okay, un sage qui va se rebeller contre les autres sages. Maintenant, donc on va voir, il y a une autre question. La question que j'ai posée tout à l'heure. Alors quoi, on voit ici, il y avait une mitzvah de fixer des tribunaux dans toutes les villes. Et une mitzvah de fixer un tribunal à Yerushalayim, le Bedina Gdola. Et quoi? Les tribunaux qui sont dans chaque ville, j'ai pas l'obligation d'écouter tout ce qu'ils disent à la lettre. J'ai pas besoin d'écouter ça. J'ai oui besoin d'écouter ça. Pourquoi là tu me dis pas il y a un interdit de la Torah de pas les écouter? Alors la réponse elle est toute simple. Les tribunaux qui sont dans les villes ne sont pas là pour juger des cas qu'on ne connaît pas la halakha. Ils sont là pour juger ce qui a déjà été fixé. Ce qu'on connaît la halakha, c'est écrit dans la Torah où ça a été fixé par le tribunal à Gadol de Jérusalem. Alors, on peut maintenant, nous, les petits tribunaux, décréter que toi, tu es responsable de payer tant, etc., etc. Mais eux, ils ne vont pas décider de la loi. Le seul tribunal qui peut décider de la loi, c'est le tribunal qui est à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash. Et c'est le seul sur lequel il y a l'interdit de la Torah de ne pas croire en ce que lui va expliquer. En ce que lui va expliquer. Ce qui est déjà écrit, il n'y a pas besoin que tu me l'expliques. D'accord? Il suffit juste d'être un peu chacham et d'ouvrir des livres. Donc eux, les autres dayanim, ils font ça. Ils ouvrent les livres, ils te disent, ben toi t'es chayav, parce qu'eux, ils connaissent mieux que toi. D'accord? C'est leur rôle d'être juge. Mais ils ouvrent les livres que le tribunal à Gadol, il a déjà écrit. Mais le tribunal à Gadol, ah, c'est sur lui. C'est lui qui va fixer toute la transmission. Et la Torah te dit, lui, tu es obligé de l'écouter. Celui-là, tu es obligé de l'écouter. Comment ça se passait, Rabotai? Ça se passait comme ça. Il y avait, dans le Beth Amikdash, trois tribunaux. Un, à l'entrée du Harabait. Quand vous rentrez au Beth Amikdash, vous voyez, aujourd'hui, là où il y a le Dôme du Rocher. Ouais, le machin comme ça, doré, là. Là-bas, il y avait le Kodesh HaKodeshim. Avant de rentrer dans le Kodesh HaKodashim, il fallait passer trois barrières, entre guillemets. Il y avait la barrière du Har HaBait, la montagne du temple. C'est toute l'esplanade, ce qu'ils appellent aujourd'hui l'esplanade des mosquées, ce que nous on appelle l'esplanade du temple. Donc ce qu'ils appellent l'esplanade des mosquées, d'accord? Là-bas, dès que tu rentrais, il y avait un tribunal. Si toi maintenant tu venais en tant que juge d'un autre tribunal, je ne sais pas, juge de Tel Aviv. Tu arrives à Jérusalem, tu as une question. Arrête, moi je dis c'est comme ça la halakha, et mes collègues disent c'est pas comme ça la halakha. Maintenant on ne sait pas c'est quoi la loi. On pense que le verset il veut dire ça, mais on ne sait pas c'est quoi la loi, etc., etc. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu il a dit là-dessus? On se dispute là-dessus, on ne sait pas. Tu arrives au Beth Amikdash, tu rentres dans le premier tribunal qui est à l'entrée du Beth Amikdash. Vraiment, tu n'es même pas encore rentré dans le Beth Amikdash, tu es sur l'esplanade. Tu poses ta question au premier tribunal, qui est un tribunal de 23. Il te dit, oui, le tribunal à Gadol, il nous a déjà répondu cette question. C'est ça la halakha, tu rentres chez toi. S'ils te disent, on ne sait pas, on n'a pas entendu, tu passes un cran au-dessus, tu rentres dans le Beth Amikdash. Tu rentres dans le Beth Amikdash. Dès que tu rentrais, il y avait là-bas dans la Hazara, c'est-à-dire dans le parvis du Beth Amikdash, il y avait le Sanhedrin Aketana, le petit Sanhedrin. Tu rentres là-bas et tu reposes ta question. S'ils te disent la réponse c'est ça, comme ça le tribunal à Gadol il nous a dit, tu l'écoutes et tu t'en vas. S'ils te disent on ne sait pas, tu rentres maintenant dans le Kodesh, dans le Saint, tu rentres dans le Sanhedrin à Gadol, et là-bas tu vas poser ta question devant les 71 plus grands rabbins au monde.
Ils peuvent ne pas savoir ?
Hein ? Ils vont discuter de ta question.
Ils peuvent ne pas savoir aussi, hein ?
Non. En général, il y a pas de, ils peuvent pas savoir.
En général,
ils vont trancher. J'ai pas vu. Mais j'ai pas vu toute la Torah non plus. Donc, ils vont trancher.
C'est pas possible parce qu'ils vont trancher. Ce...
Ils vont trancher. Je vais arriver. Ils vont trancher. Ils vont discuter. Et après, on va selon la majorité. C'est pour ça que c'est impossible qu'ils sachent pas. Parce que même s'il y a des avis différents, on va aller selon la majorité. Et comme ils sont 71, c'est impossible qu'il y ait 50-50.
Il
n'y a pas de vote blanc, interdit.
Quoi ?
S'il n'y a pas, alors je ne me souviens plus, il faut voir tout ça, Nedrine, si je me souviens bien, non, ils sont obligés de se prononcer. Ils sont obligés de se prononcer. Maintenant, si un ne veut pas se prononcer, il sort. Il sort et on met un autre à sa place. Ma, qui tu es ma... Sanhedrin. Selon comment je l'ai dit, tu sais l'écrire.
Ah.
Samer Nun He Dalet Resh Yud Nun. Donc, maintenant, le Sanhedrin, eux, ils vont discuter et ils vont fixer c'est quoi, comment ça a été reçu. Et il y a une loi dans la Torah qui est écrite noir sur blanc aussi dans la Torah qui s'appelle Ahare Rabim La Tot. Après la majorité, on va. Donc, eux, comment ils vont décréter, c'est comme ça. Si maintenant ils te disent c'est Alakha le Moshe Misinaï, comme ça on a reçu depuis Moshe Rabbeinu. De maître à élève, tu n'as rien à dire non plus. Tu reçois et tu te tais. Et comme ça, c'est la halakha. Et comme ça, depuis Moshe Rabbeinu, le Beit Din HaGedola, il fixe la loi. Depuis Moshe Rabbeinu. C'est eux qui vont tout fixer sur ordre d'Akadosh Baruch Hu. Donc maintenant, on a une loi de la Torah qui nous dit qu'on est obligé d'écouter les lois qui ont été fixées par ce Beit Din HaGadol. D'accord ? Maintenant, si on explique bien le verset, juste, j'ai pris le truc parce que je ne pensais pas retenir de tête. Il y a ici, le verset dit comme ça. « Api ha Torah asher yorucha » Selon la Torah qu'ils t'enseigneront. Si vous regardez bien, le verset il se répète plusieurs fois. Oui, quand je l'ai cité, le verset il dit comme ça. « Api ha Torah asher yorucha » Va'ala mishpat ou mikol davar asher yagidu lecha. Ça va. Dis-moi, d'après ce qu'ils vont t'enseigner, tu dois faire. Et puis c'est tout. Pourquoi tu me dis ? Et selon la loi, d'après la Torah que eux vont t'enseigner, et selon la loi qu'ils vont t'enseigner, et selon les choses qu'ils vont te dire. Ça va. Pourquoi trois fois la Torah elle se répète ? Alors est-ce que vous savez que toutes les drachotes de nos sages, elles ne viennent que parce que il y a des mots en trop. Puisque s'il y a un mot en trop, que je n'avais pas besoin de ce mot pour le comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas besoin que ce soit écrit. Quelque chose qui est logique, il n'y a pas besoin que ce soit écrit. Si c'est écrit, tout le temps la Gemara elle pose la question, pourquoi j'ai besoin d'un verset, j'aurais pu le comprendre tout seul. Il n'y a pas besoin d'écrire les choses qui sont qu'on peut les comprendre tout seul. Des autres versets d'à côté, on aurait compris ça. D'accord ? Donc ici, la même chose. C'est marqué, « Al-Pi HaTorah Asher Yorucha », de quoi on parle ? C'est les décrets. Tous les décrets qu'ils vont faire nos sages. Vous savez que nos sages ont le pouvoir de faire des décrets pour protéger la Torah. Par exemple, Mouktsé. C'est un décret des rabbins pour ne pas en arriver à transgresser Shabbat. Parce que si on te permet de toucher ta tronçonneuse Shabbat, ben il t'achène que si tu te promènes dans ton champ avec ta tronçonneuse pendant Shabbat et que tu vois une branche qui est en travers, tu vas oublier que c'est Shabbat et tu vas couper la branche. Donc on t'interdit de toucher ta tronçonneuse. D'accord ? Comme ça, tu n'arrives pas à t'oublier. Surtout pour les gens qui ne sont pas très religieux et qui font la belote à Shabbat, d'accord ? Ils jouent à la contrée. Souvent, ils oublient que c'est Shabbat. Et des fois, ils sortent des billets. Oh, pardon, je n'ai pas fait exprès. Ils posent sur la table des billets. En plus, ils ont interdit, ils ont oublié que c'est interdit de jouer de l'argent. Allez.
Au final, c'est permis ou pas ?
Ça dépend d'après qui. Ça dépend c'est qui ton rabbin. Et ça dépend qui tu es. D'accord ? On va essayer d'expliquer ça aussi. C'est un grand problème dans la halakha. Tu vas voir un rabbin, toi, il va te dire ça sourd. Lui, il vient le voir, permis. Après, les deux, ils se croisent dans la rue. Ah, mais moi, il m'a dit ça sourd. Ah, mais moi, il m'a dit c'est permis. Et makara lecha le rabbin. C'est le même rabbin. Là, c'est même pas deux rabbins. Si au moins c'était deux rabbins, je comprends. Mais là, c'est le même rabbin. Et il dit deux choses différentes à deux personnes. Il va se les mettre dans la poche tous. Regardez. Alors bon, en tout cas, on va essayer de voir ça aussi. Azalpia Torah, Shari Rucha, d'après la Torah qui t'enseigneront, ça, ce sont les décrets qu'ils vont faire pour protéger la Torah. Versus et Yag la Torah. Après, c'est marqué quoi? Va la Mishpat, et selon la loi. De quoi on parle là? C'est ce qu'ils ont appris par toutes les drachot. C'est toutes les drachot qu'ils vont faire. Vous savez, on lit tous les matins après le Pitoum Haktoret. On lit là-bas et après les Korbanot. On lit quoi? On lit tous les matins les 13 midot shatora nidreshet baem. Amar Rabbi Ishmael, et c'est Tatan Rabbi Ishmael. Ils ont dit au Beit HaMidrash de Rabbi Ishmael, il y a 13 midot selon lesquelles la Torah, on peut l'expliquer. 13 manières de comprendre les versets de la Torah, d'expliquer les versets de la Torah. Quand il y a un mot en trop, il y a 13 façons de pouvoir jouer avec ces mots pour arriver à des lois. C'est que même ça, c'est reçu. Comment? Pourquoi? Vu qu'ils n'ont pas fait ça comme ça, pour rien. La Torah, elle est venue te dire maintenant, ce mot, il est en trop. J'aurais pu le comprendre sans ça. Comme un homme, mais ces drachotes-là, elles ont été fixées par qui? Par Moshe Rabbeinu. Mais qui c'est qui a dit ça? C'est le rabbin. Mais quel rabbin? Ceux qui étaient au temple. Maintenant, en tout cas, ces 13 manières-là, elles ont été transmises par Moshe Rabbeinu. Et qui c'est qui t'a dit ça? Ce sont ceux qui sont dans le Beit Hamikdash. Et ceux qui sont dans le Beit Hamikdash, la Torah, elle t'a dit, c'est ça ma volonté. C'est eux que tu dois écouter. Hein? Non, une fois qu'il fixe, il fixe. Une fois qu'il fixe, il fixe. Ce qui est fixé, tu ne peux plus te défaire. Si maintenant il y a un autre Bedin qui vient les contredire, quelques années après, alors oui, tu dois écouter celui qui est dans ton temps, et pas ceux qui étaient avant. Parce que eux, avec leur réflexion, ils ont dit maintenant on supprime ça ou on rajoute ça. Mais personne ne va te dire maintenant, même les décrets qu'ils ont faits, ils ne te diront jamais qu'ils sont de la Torah. Donc ils ne font pas l'interdit. Vous savez qu'il y a un interdit dans la paracha qu'on a lu il y a 15 jours, 3 semaines, dans Ekev. C'est marqué, on n'a pas le droit de rajouter ni d'enlever des mitzvot. Et les rabbins, ils ont fait quoi? Une tartine, ils ont rajouté. C'est un interdit de la Torah de rajouter des mitzvot. Mais les rabbins, ils ont rajouté une tartine, pas une, pas deux, pas trois. Il y a plus de mitzvot des rabbins que de la Torah. Alors? Non, ils t'ont jamais dit qu'ils ont rajouté des mitzvot à la Torah. Ils ont rajouté des mitzvot des rabbins. Mais c'est pas écrit dans la Torah. Il n'y a pas les mitzvot des rabbins dans la Torah. Si tu transgresses la parole des rabbins, tu n'es pas en train de transgresser une mitzvah de Moukhtse qui est écrite dans la Torah. Il n'y a personne qui t'a jamais dit une chose pareille.
Bon. Sinon, c'est quoi dans ce cas-là? C'est que tu n'as pas transgressé en vrai la Torah.
C'est l'interdit d'écouter.
De quoi?
Si t'as transgressé une mitzvah des rabbins, comme ça, en vérité, tu n'as pas transgressé la mitzvah de la Torah, puisqu'elle n'existe pas.
Tu as juste transgressé l'interdit de ne pas avoir écouté les rabbins. Et ça, c'est un interdit de la Torah. D'accord? Un interdit de la Torah qu'on vient de lire. Et qu'on vient d'expliquer. Maintenant, le troisième verset dit « Mikol adavar asher yagidu lecha » de toutes les choses qu'ils te diront. Ça, c'est quoi? C'est ce qu'ils ont reçu directement de maître à élève sans aucune explication. Ça aussi, tu dois les croire. Tout ce qu'ils te diront, tu devras les croire. Maintenant, la Gemara, etc. Toutes ces choses-là, hein, la Gemara, la Mishnah, etc. sont basées que sur ce que les gens du tribunal à Gadol, ils ont fixé. Du Grand Sanhédrin, ils ont fixé. Selon toutes les lois qu'ils ont fixées, alors on t'a laissé une marge d'action. Une marge d'action? Une marge pour agir, toi, le rabbin de l'époque de la Gemara, qui vient 400 ans après eux, on t'a laissé une marge pour agir, un champ d'action. Ce champ d'action, on t'a fixé, c'est quoi les lois de ce champ d'action? Dans ce champ d'action-là, si tu arrives à prouver ce que tu vas dire sans transgresser ce champ d'action-là, c'est la vérité. Puisqu'il fait partie de ce que nous, on a déjà fixé. Et ça, la Torah, elle t'a dit que tu dois écouter. Donc en vérité, toute la transmission... Et si on regarde bien, jusqu'à Hillel et Shammai, depuis Moshe Rabbeinu, il n'y a aucune marloquette dans le peuple d'Israël. À partir de quand commence la discussion entre les rabbins, où il y a une marloquette, où il y a un véritable désaccord, Mais avant, même dans le Bedin, il n'y avait aucune discussion. Tout le monde était clair. On a tous reçu la même chose. Elle commence à partir de Hillel et Shammai. Hillel et Shammai, c'était encore à l'époque du Bedin. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi eux? Parce que vous savez, il y a un principe très connu dans la Torah qui s'appelle Yeridat Adorot. Pas du tout. C'est la fin, c'est les Zougot. C'est la fin des Zougot, ce qu'on appelle les couples. Quoi? Le chef du tribunal et le chef du Sanhedrin. Donc, les Zougot. Donc, pardon. Maintenant, il y a ce qu'on appelle dans la Torah Yeridat Adorot. La descente des générations. Plus on avance dans le temps, et moins on est intelligent. D'accord? Par exemple, il y a une blague comme ça, c'est qu'une fois, il y avait un ministre. Il était chez un rabbin, un ministre d'ici, un ministre israélien, hein, qui croit absolument pas en Dieu. Et il était chez un des gdolim de la génération, de la génération précédente, je sais plus. Et d'un coup, il voit le fils du rav. Dès que le rav y rentre, il se lève devant lui, il va lui embrasse la main, il lui prépare la chaise. Le rav, il s'assoit, il lui amène vite en courant un verre d'eau. Et le ministre, il le regarde, il lui dit, dis-moi, moi quand je rentre à la maison, hein, mon fils, même pas, il me dit bonjour. Presque, il me crache dessus. Si je lui demande un truc, il me dit, tiens, allez te le chercher toi-même. Comment tu as fait un truc pareil? Il lui dit, écoute, c'est pas compliqué. Moi, je crois que je descends de Adam Harishon. Et qu'il y a une descente dans les générations. Donc, vu que je descends de Adam Harishon, et qu'il y a une descente dans les générations, mon fils qui vient après moi, il est moins grand que moi, donc il me doit du respect. Mais toi, tu crois que tu descends du singe. Donc ton fils, il est plus intelligent que toi, donc c'est toi qui lui dois du respect. D'accord? Mais chez nous, ça ne marche pas comme ça. C'est l'inverse. D'accord? Chez nous, c'est ce qui est vrai. On descend. Donc maintenant, il est les Shammai. Lui, il a capté un enseignement. Lui, il n'a pas capté de la même manière. Les deux enseignements, ils sont complètement vrais. Le Rav, il a dit les deux dans ce qu'il a dit. Mais lui, il a capté qu'une nuance de l'enseignement et lui, il a capté qu'une autre nuance de l'enseignement. Maintenant, on arrive, ils disent, mais non, le Rav, il a dit ça. Et lui, il dit, mais non, le Rav, il a dit ça. Un petit exemple.
Comment ça peut être une nuance alors que c'est complètement...
Complètement quoi?
Comment ça peut être une nuance? Une nuance, c'est... Ok, c'est à côté.
Non, parce que...
La plupart du temps, c'est opposé. Ah, il dit oui, il dit non.
Mais quand tu rentres vraiment dans la chose, tu t'aperçois que pas toujours c'est opposé en vérité. Même s'il lui dit oui, lui dit non. Quand tu dis vraiment, tu t'aperçois que non. Le Rav Ben Sion Abba Shaoul, très souvent, j'ai pas d'exemple concret là sur place. Le Rav Ben Sion Abba Shaoul, il disait comme ça. Quand j'étudie Rashi, j'ai un pshat clair sur la Gemara. J'étudie Tosfot, qu'est-ce qu'il a raconté Rashi? Ça veut plus rien dire. Je réétudie Rashi, je comprends même plus les questions de Tosfot qu'ils avaient sur Rashi. Parce qu'en vérité, il a déjà répondu à leurs questions. Je réétudie Tosfot. Et d'un coup, je m'aperçois qu'en vérité, les trois quarts du temps, ils ne sont pas en marque-loquette. Hein ?
Ils sont en point de vue, quoi.
C'est une manière de voir la chose. Maintenant, donc, maintenant, il est les Shammai. Donc, c'est vrai, aujourd'hui, on a une Torah qui va être que parcellaire, parcellée. C'est-à-dire qu'on va voir qu'en vérité, une facette de la Torah. Mais plus on grandit dans la Torah, et plus les Gdolim, eux, ils voient plusieurs facettes. Mais juste comme la halakha a été tranchée au fur et à mesure des générations, selon certaines facettes, alors tu ne peux pas faire comme les autres facettes. Parce que ça a été tranché. Au fur et à mesure des générations. Même si tu comprends la deuxième facette, maintenant tu ne peux plus l'appliquer. Mais nous, à notre petit niveau, alors oui, on a une vision de la Torah, et c'est ça qui dérange très souvent les balais de Tshuva. Je veux comprendre tout. Mais tu ne peux pas comprendre tout. D'abord comprendre, d'abord ce qu'on te demande. Maintenant, avec Inachiname, la vision parcellée que tu as, pour l'instant, tu vois qu'une facette. Tu ne peux pas voir plus que ça. Parce que déjà que tu finisses en 120 ans la première facette, après tu sais rien de passer la deuxième, d'accord? Mais déjà la première. Et comme ça a été transmis de génération en génération. Si vous prenez Pirkei Avot, il récite depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à Hillel et Shammai, comment ça a été transmis. Et il n'y avait aucune discussion. À partir de Hillel et Shammai, comment ces discussions? Et comment ces discussions entre les deux écoles? Les élèves de Shammai et les élèves de Hillel. Ce qu'on appelle Bet Hillel et Bet Shammai. Des guerres. Pas des guerres physiques. Des guerres d'idées profondes. Shammai, il pense la Torah, elle est vraie et il n'y a pas de... Il n'y a pas à être intransigeant. On est intransigeant. Il n'y a pas d'indulgence. Il est, il dit, ma pitom, la Torah, elle est faite pour être adaptée à l'homme. Donc tu l'adaptes. Ça, ce sera pour l'époque du Mashiach, ce que tu racontes. Quand tout le monde verra clair. Aujourd'hui, on ne voit pas clair. Donc tu dois adapter. Les deux, c'est un regard qui existe déjà depuis Moshe Rabbeinu. Puisque Moshe Rabbeinu, il est en discussion avec Bezalel. Pour la même discussion que Hillel et Shammai. Moshe Rabbeinu, il est en discussion avec Bezalel. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est Bezalel qui a raison. Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, c'est Bezalel qui a raison, c'est pas toi.
Moshe, il pense comme qu'il est Hillel.
Non, comme Shammai. Moshe, il voit le Emet, il voit Dieu. Il ne peut pas penser comme il est. C'est pas possible. Il pense comme Shammai forcément. Quand il pense comme Shammai forcément. Maintenant, on arrive à quoi? L'Alakha, elle est fixée par le Bet Din HaGadol. Comme qui? Bet Hillel. A tel point que la Gemara, elle dit qu'en Rabbi Tarfon, qui était aussi à l'époque du Bet Din, il dit dans Brachot, vous savez qu'il y a une mahloquette entre Bet Hillel et Bet Shammai. Comment on fait le Kriyat Shema du soir? Allongé ou debout? Ou assis?
Assis.
Bet Hillel, ils disent, tel que tu es, tu fais. Bet Shammai, ils disent, allongé, parce que c'est marqué Ufshor Becha, tu dois te coucher. Bet Hillel, ils disent, non, ce qui est écrit Ufshor Becha, au coucher, c'est à l'heure du coucher, à l'heure où la nuit tombe. Mais ça n'a rien à voir avec comment tu dois être mis. Rabbi Tarfon, une fois que la halakha a été décrétée comme Bet Hillel, lui il dit, un jour j'étais en chemin et j'ai voulu faire comme Bet Shammai. Je me suis allongé pour faire Kriyat Shema de la nuit et j'ai failli mourir. Pourquoi? Des voyous m'ont sauté dessus et m'ont attrapé pour me tuer. Non, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis dans un sac. D'accord? Et ils l'ont transporté pour aller le tuer ou je ne sais pas quoi faire, une demande de rançon. Et il a dit, malheur à toi Tarfon, malheur à toi Tarfon. Et d'un coup, ils ont entendu que c'était Rabbi Tarfon, ils l'ont jeté par terre, ils sont partis. D'accord? Et comme ça, il s'est sauvé sa vie, et toute sa vie, il a pleuré parce qu'il a dit, j'ai utilisé mon honneur de rabbin pour être sauvé. Alors j'aurais dû mourir. D'accord? Mais bon, en tout cas, c'est le niveau de Rabbi Tarfon, d'accord?
Quoique s'il l'avait fait assis, eh ben, il ne se serait pas fait attraper.
Non, s'il l'avait fait comme il est en chemin, il était en train de marcher. Ou s'il était assis, il aurait pu partir vite, mais allongé. Comment tu pars? Une fois que tu es allongé, tu vois des brigands qui arrivent. Tu peux même pas. Du temps que tu te lèves, ils sont déjà sur toi.
Après, tu es obligé de finir ton.
Non, c'est, si tu es en sakana, tu t'en vas. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'ils lui répondent les sages? Ils lui répondent quoi?
T'aurais fait comme t'es responsable.
Et ils lui répondent. Comment ils disent? Va à la vaille chez Tahav. Je ne sais plus comment ils lui disent en hébreu. Ils lui disent. Ils auraient dû te tuer. Tu as transgressé la parole du Bedin! Le Bedin, il a dit que la c'est comme Bet Hillel. Pour qui tu te prends de faire comme Bet Shammai? Dommage, ils t'ont pas tué, ils lui ont répondu. Dommage, ils t'ont pas tué. D'accord? Donc, on voit pourquoi? Parce que lui, Rabbi Tarfon, comment tu as osé faire comme Bet Shammai au lieu de faire comme Bet Hillel? Une fois que le tribunal il a fixé que la c'était comme Bet Hillel. Et comme ça, tout le Talmud, il a été fixé. Toute la base du Talmud, elle a été fixée. Après les discussions, alors c'est que des visions parcellaires. En effet. Mais comment la halakha a été fixée? On va selon la majorité à chaque fois. Et même si la Gemara, elle est après le Bet Hamikdash, vu que ça a été fait selon les lois qui ont été données à l'époque du Bet Hamikdash, alors il n'y a aucun problème, c'est complètement vrai à 100%. Et c'est à 100%, à 100%, et c'est ça la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on étudie en vérité, qu'on étudie la Gemara, complètement la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et pas comme certains y croient, ils vont rester avec le texte ici, et en vérité, ils vont arriver à des fausses explications, des non-sens dans le texte écrit de la Torah, et finalement, ils vont transgresser la volonté d'Akadosh Baruch Hu en croyant qu'ils font ce qui est écrit. Alors que nous, Baruch Hashem, en étudiant la loi orale, on peut comprendre exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu a demandé. Shinske Be'ezrat Hashem, de bien s'imprégner tout ça avec pour ceux qui ont encore des questions. Alors, le temps que vous êtes là.